Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati Masanzi.
La une de l'actualité ce midi sur Radio Kapi. Plus de 30 détenus du cachot du parquet près le tribunal de paix d'Idiofa au Kwilu se sont évadés dans la nuit de jeudi à vendredi. La société civile locale attribue cette situation notamment aux mauvaises conditions de détention. Les combats à l'arme lourde et légère ont repris ce samedi autour de Sake, à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma au nord Kivu, entre les rebelles du M23 soutenus par leurs alliés du Rwanda et les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo. Notre invité est Prince Yassa, vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en charge de l'Afrique centrale. Il nous parle des avantages du premier forum des médias sur la santé infantile, nutrition et vaccination qui vient de se tenir à Lomé, au Togo. Madame, messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette évasion massive dans la nuit du jeudi à vendredi 15 mars 2024 d'une trentaine de détenus du cachot du parquet près le tribunal des paix d'Idiofa dans la province du Kwilu. La société civile locale estime que cette évasion est due notamment aux mauvaises conditions de détention et la détention prolongée sans être jugée à cause de la carence des magistrats. Irène Mbomaluzolo.
Parmi ces 33 détenus du cachot du parquet près le tribunal de paix d'Idiofa qui se sont évadés, on compte une femme. Le président de la société civile locale, Jean-Marie Benz, indique que ces derniers se sont remis à liberté en escaladant les murs après avoir troué les plafonds pour les uns et d'autres sont sortis par la porte centrale, laissant ainsi la cellule complètement vide. Pour cette source, ce sont les conditions carcérales inhumaines ainsi que la détention prolongée sans être jugée à la suite de la carence des magistrats qui ont poussé ces évadés à bout.
Tout ce que nous pouvons reconnaître, tous les nourris, ça pose problème. Les conditions d'accueil dedans, c'est très sale. Vous ne pouvez pas fourrer votre nez là. Quelqu'un qui peut arriver là, il a fait 5, 2 ans, 3 ans, il n'est pas passé devant la chambre de conseil pour reconnaître son sort. Parce qu'il n'y a qu'un seul magistrat au tribunal.
Pour sa part, Maître Alain Kamanda, un des acteurs des droits humains, redoute la recrudescence de l'insécurité à Idiofa après cette évasion. Précisons que les policiers de garde est aussi porté disparu avec son arme. Et ces évadés ont battu un agent de police judiciaire qui a tenté de stopper l'un des leurs. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et au nord Kivu, la société civile de la ville de Beni alerte sur les mauvaises conditions hygiéniques à la prison pour femmes de Beni. Pépin Kavota, son coordonnateur, a fait ses constats après une visite mardi dans cette maison carcérale. Avec un total de 73 détenus, il affirme que seule une toilette fonctionne. Les deux autres sont bouchées depuis plus de 3 mois. Les femmes détenues confirment, mais la directrice de la prison rejette ces allégations. Guylaine Kassassian fait le point.
Une seule toilette pour 70 personnes, la société civile de la ville de Beni dit craindre pour la santé de femmes détenues à la prison centrale. Pepe Kavota appelle les autorités à se pencher sur cette situation pour éviter les pires.
Dans cette prison, il y a 3 toilettes. Une seule est en train d'être utilisée par une septantaine de personnes qui ont même des enfants. Il y a risque de maladie. C'est ici l'occasion d'appeler l'autorité urbaine, même au niveau provincial, national, de faire urgence pour que les 2 autres toilettes soient réhabilitées avant que les pires n'arrivent. La CG, elle a dit que les toilettes sont bouchées parce qu'il y a un grand nombre de femmes au parquet, civiles, militaires, d'aller vers même ces mamans-là pour auditionner leur dossier à vue de libérer certaines mamans qui ont commis des faits bénins. Parce que la liberté conditionnelle qu'a organisé le parquet civil, on a seulement libéré 3 femmes sur les 70 de personnes qui s'y trouvent.
Contactée, la directrice de cette maison carcérale le nie les faits et affirme que toutes les toilettes sont fonctionnelles. Toutefois, elle connaît, je cite, que l'une d'elles se bouche de temps en temps, fin de citation, mais ajoute que depuis, ils ont trouvé le moyen de l'utiliser. Une version contestée à son tour par des femmes détenues. Certaines affirment avoir déjà attrapé de maladies, telles que la blénorragie et autres, à cause des mauvaises conditions hygiéniques. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
Annie Touri Pandastan, la MONUSCO a remis hier un lot important du matériel composé essentiellement des vivres et non-vivres aux femmes détenues de la prison centrale de Bounia. Matelas, couvertures, savon solide et en poudre et des bassins pour les femmes allaitantes ont été offerts afin d'améliorer leurs conditions de détention. Ces gestes rentrent dans le cadre du mois de mars dédié à la promotion des femmes. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
Les femmes détenues à la prison centrale de Bounia ont été d'abord sensibilisées par celles des différentes sections de la MONUSCO sur les questions liées aux droits des femmes. Elles ont été aussi encouragées à accepter leur situation des prisonnières pour mieux rebondir à la fin de leur peine. Certaines d'entre elles qui allaitent ont reçu des kits d'hygiène et d'autres des morceaux de savon pour nettoyer leurs cellules. Véronique Mambouna, détenue et bénéficiaire, exprime sa gratitude.
Moi j'ai reçu le bassin pour mon enfant, du savon, du riz, ce dont nous soulage beaucoup. Et surtout que ce n'est pas la première fois, en tout cas nous disons merci à la MONUSCO.
François Massoumbouko, responsable de la section DDR de la MONUSCO, qui a par ailleurs remis un lot de 100 matelas, couvertures et savon en poudre, dit poser ce geste au regard des conditions difficiles que traversent les détenus dans cette prison.
Les défis sont grands, les problèmes sont nombreux à la prison centrale de Bounia. Les pavillons des femmes, nous l'avons réhabilité il y a quelques années. Aujourd'hui, nous les dotons avec des matelas. Les retraits étant responsables et programmés, nous travaillons effectivement avec les autorités congolaises afin que les transferts de compétences ne puissent pas souffrir à notre absence.
Cette activité a été organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Bounia. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
On en vient maintenant au Nord Kivu. Reprise des combats à l'armée lourde et légère, c'est samedi autour de Sake, à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma. C'est depuis 5 heures juste, heure locale, que ces combats ont commencé selon la société civile de Sake. Cette source affirme aussi que ce sont les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui ont tenté une énième fois de conquérir Sake à partir des collines environnantes. Mais ils ont été repoussés principalement par les Wazalendo, appuyés par l'artillerie des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs familles sont déchirées et affectées par les conflits Tekeaka dans l'espace Grand Bandundu et ici à Kinshasa. Révélation ce vendredi à Kinshasa, résultant d'une enquête du service protestant de développement de la diaconie de l'église du Christ au Congo SCC. Selon le pasteur Brian Parrish, qui a conduit cette étude, les besoins les plus ressentis auprès de ces familles sont liés essentiellement à la subsistance. Brian Parrish les dit à Paul Matindo.
J'ai rencontré des communautés à Kikwit qui ont été déchirées par ce conflit. Et quand je voyais aussi, même tout proche de chez nous, à Massina, des communautés qui accueillent 200, 300 familles, on voyait les conditions des personnes qui sont là, des personnes qui sont déplacées, sont des personnes qui ont tout laissé derrière eux, qui n'ont plus d'activité économique, qui ont tout laissé, donc pour pouvoir aussi survivre avec leur famille, ont aussi besoin de l'aide, de besoin en premier lieu pour les familles déplacées. Et leur demande, c'était le moyen de subsistance. Ça peut être de plusieurs façons, mais de pouvoir aussi manger correctement pour la famille, tout simplement. Par contre, on voyait aussi que les familles demandaient aussi un soutien pour leur projet économique. Certains essayent de vendre ici à Kinshasa ou ailleurs.
On enchaîne avec le Sud Kivu, où les professionnels de santé et autres agents administratifs réclament la bancarisation de leurs salaires et primes. Ils se sont exprimés à l'issue d'une marche pacifique organisée à Bukavu hier vendredi. Pour ces professionnels de santé, leur secteur doit subir un nettoyage profond afin de faire bénéficier les agents actifs à la place des fictifs qui y sont d'ailleurs appréhendés. Monsieur Pascal Mpurutu Mugugu, président du syndicat des professionnels de santé du Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamejo Kabedi.
Notre revendication, c'est la bancarisation de nos primes et salaires. Et pour sécuriser les salaires des fonctionnaires de l'État, le gouvernement a opté à la bancarisation de tous les fonctionnaires. Et cela s'est fait partout ailleurs, sauf le secteur de la santé dans la province du Sud Kivu. Le gouvernement avait décidé l'augmentation de la prime à tous les fonctionnaires. Et pour le Sud Kivu, il n'y a que 2 mois seulement qui ont été payés. Aussi, il y a nos collègues mécanisés en 2023, après une vingtaine, trentaine d'années pour certains sans être payés. Curieusement, ceux-là qui étaient orientés à la BOA n'ont rien reçu jusqu'à ce jour. Alors que pour les autres banques, par exemple à la TMB, Equity, ils sont payés mensuellement. Nous insistons beaucoup pour la bancarisation et être payés le mois de janvier et février 2024 à la banque. Procéder aussi au remplacement des fictifs, parce que notre fichier compte plus de 2000 fictifs. Nous voulons à ce que ces fictifs soient remplacés par le personnel non payé en fonction.
Et puis, au Kassai oriental, la ville de Mbujimayi est dans le noir depuis le début de la semaine. Et pour cause, les vols des cornières sur la ligne haute tension qui transporte l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Tchiala à 20 km de Mbujimayi dans le territoire de Katanda, ainsi que certains actes de vandalisme du réseau électrique. D'après le directeur général de l'entreprise Enerka, Énergie du Kassai qui commercialise l'énergie électrique, sur 97 pylônes existants, les inciviques ont déjà vandalisé 46. Victor Kabungo salue cette fois-ci l'implication de l'autorité provinciale pour le rétablissement de la situation et lui demande en même temps d'instruire les services de sécurité pour la sécurisation des pylônes de la ligne haute tension. Victor Kabungo Kavitch, directeur général des NRK, est joint par Esther Dalafina.
Les pylônes sont parmi les pylônes les plus vandalisés par les inciviques qui ne veulent pas l'avancement de cette province. Quand on parle des tuyaux, nous parlons des pylônes. C'est une structure métallique avec beaucoup de cornières. Donc ça pèse 2 tonnes et la hauteur c'est 25 mètres. Ils viennent, ils scient toutes les cornières sur la base. Alors sur 97 pylônes, ils en ont scié 47. Il y a 2 semaines, nous sommes intervenus sur 3 pylônes. Pylônes 48, 49 et 47 pour renforcer. Mais pendant ce temps-là, ils sont allés maintenant sur 41. On a pris carrément un pylône de réserve. C'est celui-là que l'on monte, mais en 2 pièces. Alors c'est ce qui fait que les pylônes ne font que tomber. Donc on arrange et ils viennent, ils découpent. Nous sommes devant un problème très 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 sérieux. Il faudrait que l'autorité nous accompagne pour la sécurisation de cette ligne. Cette fois-ci, la province nous a soutenus avec 3 engins. La même population là qui veut du développement, le développement vient avec l'énergie et c'est la même population là qui vandalise ce qui existe déjà.
Dans le domaine des relations diplomatiques, le ministre d'État du Royaume-Uni au département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales a fait une visite officielle ici à Kinshasa, capitale de la RDC du 13 au 15 mars courant. Laure Bénion a souligné que son séjour à Kinshasa vise à renforcer les relations bilatérales dans les domaines des commerces, de l'investissement, du climat et de l'énergie avec la RDC. La Grande-Bretagne s'engage également à apporter son assistance humanitaire à la population victime des conflits armés dans l'est de la RDC, ajoute Laure Bénion, ministre britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales. Nous vous proposons un extrait de l'entretien qu'il a eu avec Tati Mapuku.
La RDC est un ami important du Royaume-Uni et nous sommes engagés dans le partenariat entre le Royaume-Uni et la RDC. Nous souhaitons renforcer notre collaboration dans les domaines comme le commerce et l'investissement, le climat et l'énergie. Nous savons à quel point de nombreux Congolais de l'Est souffrant du conflit et de la crise humanitaire qui en résulte. Le Royaume-Uni s'engage activement à soutenir la réponse humanitaire et le dialogue diplomatique et à mettre fin à ce terrible.
Actualité internationale.
Au Cameroun, le parti d'opposition MRC s'inquiète d'une possible modification du calendrier électoral. Dans une déclaration signée hier, Maurice Kamto, le président du principal parti de l'opposition, dénonce des manœuvres du pouvoir visant une inversion du calendrier électoral, soit l'élection présidentielle avant la tenue des élections municipales et législatives. Dans le calendrier initial, ces dernières élections sont prévues pour se tenir en février 2025 et la présidentielle en octobre 2025. Et puis, le parti Russie Unie, soutien du président Vladimir Poutine, a déclaré ce samedi 16 mars être victime d'une vaste attaque informatique perturbant ses communications en ligne en pleine élection présidentielle. Le parti dit avoir suspendu ses services non essentiels pour repousser cette attaque par déni des services. Vladimir Poutine, quasiment assuré d'obtenir un cinquième mandat à la tête de la Russie à l'issue du scrutin qui s'achèvera demain dimanche, a accusé l'Ukraine de chercher à perturber l'élection présidentielle en Russie.
L'invité.
Il s'agit de Prince Yassa, vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en charge de l'Afrique centrale. Il a fait mardi, à l'initiative du réseau des journalistes et amis de l'enfant, la restitution du premier forum des médias sur la santé infantile, nutrition et vaccination qui vient de se tenir à Lomé au Togo et auquel ont participé les représentants des 30 pays africains et plus de 60 professionnels des médias. Prince Yassa nous fait l'économie des avantages et des enseignements engrangés au cours de cette rencontre. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Prince Yassa, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de participer à un forum qui concerne justement le rôle et la responsabilité des médias dans la promotion de la santé, la vaccination et la nutrition des enfants en Afrique. C'était à Lomé, au Togo. Qu'est-ce que nous pouvons en savoir?
Le premier forum des médias sur la santé infantile et la vaccination et la nutrition a eu lieu au Togo, à Lomé précisément, avec le financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ce forum a été organisé par les réseaux de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, au Remapsen, où je suis le premier vice-président. C'est à ce titre-là que je suis allé participer à ce forum. Je n'étais pas seul. Il y avait la coordinatrice du réseau, du Remapsen, Constance Manang, qui était avec moi. En fait, le réseau a abordé des thématiques qui n'étaient pas assez exploitées par les médias. C'est selon l'UNICEF, thématiques comme santé infantile, nutrition et vaccination. Au cours de ces 3 jours de travaux, il était question d'informer les journalistes de l'état des lieux, des questions sur ces 3 thématiques. Nous avons été informés et nous avons été aussi outillés, c'est-à-dire nous avons eu des nouvelles connaissances pour enfin de voir comment traiter ces questions sur le terrain. L'objectif n'était pas seulement de participer, mais d'être outillé pour que le jeune se soit utile à sa société. Parler de ces questions qui entravent le développement dans sa société.
Oui, vous dites que vous avez abordé beaucoup de thématiques, notamment la vaccination. Et en matière de vaccination, la RDC est assez avancée avec un programme spécial, le PEV. Et qu'est-ce que nous pouvez dire de ce qui a été approfondi et ce que vous tirez de cela par rapport à vos thématiques?
Non, mais la RDC a une très belle expérience en matière de vaccination. Cependant, il y a un retard aussi. Nous sommes en retard lorsqu'on voit la grandeur du pays. On se dit que c'est un pays certainement qui est avancé en tout, ce qui n'est pas le cas. Si nous sommes avancés, par exemple, concernant la vaccination contre le polio et les autres maladies, nous ne le sommes pas en ce qui concerne le paludisme, où beaucoup de pays sont déjà très avancés. Bon, ici, chez nous, les choses sont encore en gestation, mais bon, on ne sait pas exactement à quel niveau nous trouvons. En plus de ces retards, il y a ces enfants qui vivent dans des zones de conflit, qui ne sont pas vaccinés. Ça constitue un grand problème. Ces enfants qui sont sans nourriture et sans vaccin, vous imaginez? Donc, ce sont des défis que les pays doivent absolument relever parce que ces enfants-là ont droit d'être vaccinés aussi.
Vous citez là un cas tout à fait probant de la guerre, notamment dans l'est de notre pays. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que ces enfants qui sont dans des zones de conflit soient vaccinés effectivement? C'est quand même difficile.
Oui, c'est difficile, mais bon, puisque la MONUSCO n'est pas encore totalement partie, moi je pense que le gouvernement pourrait travailler en collaboration avec la MONUSCO parce que la MONUSCO est présente dans ces zones-là. Donc ça lui sera un peu plus facile d'atteindre ces enfants qui ne sont pas encore vaccinés des lettres. Et ça peut se faire en collaboration avec le PEV. Le vaccinateur de PEV, je crois, avec l'appui de la MONUSCO, peuvent atteindre ces enfants-là dans ces zones où se passent encore des conflits.
La rencontre de Lomé a connu la participation des 23 pays d'Afrique et 60 professionnels des médias. Est-ce que vous avez eu des échanges avec d'autres journalistes et qu'est-ce que vous avez tiré de ces échanges, des expériences de certains pays notamment en ce qui concerne les 3 thématiques que vous avez citées?
Non, ben les échanges c'est au quotidien. Je vous ai dit que je suis vice-président du réseau, donc c'est au quotidien que je gère l'Afrique centrale parce que c'est sous ma responsabilité. Et donc les échanges c'est vraiment au quotidien. Mais par rapport aux 3 thématiques, nous sommes très avancés. Nous avons un programme. Vous avez cité le PEV, nous avons un programme sur la nutrition, Pronanut, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de pays. Et donc, les échanges étaient plus dans notre sens, c'est plus nous qui avons donné de la matière aux autres, et alors qu'on se disait, bon, on y va pour beaucoup plus pour apprendre. C'est vrai qu'on a appris, mais ça n'était pas au même niveau là. Nous étions vraiment très contents de voir qu'il y a un Congolais qui est au niveau du bureau régional de l'UNICEF, docteur Claude Kongouba. Et donc, c'est lui qui avait animé c'est les deuxièmes forums. Ouais, un Congolais à ce niveau-là. C'était vraiment une fierté. Il nous parle de la vaccination et dire que la RDC est très avancée en matière de vaccination, contrairement aux autres pays que, dont je ne vais pas parler ici, qui sont en retard. Et donc, ça a constitué de la matière. Nous avons plus donné que
vous l'avez reçu.
Oui, voilà.
Conseiller Assa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie aussi.
Le vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en charge de l'Afrique centrale, Prince Yassa, répondait aux questions de Jean-Pierre et Lali Ikoko. Par ici s'achève ces radio-journales coordonnées et supervisées par Noëlla Luzitukabambi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo-Yogo. Merci de l'avoir écouté.